Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous analysons, nous commentons, nous décryptons l'actualité du jour avec ce soir Guylaine Hautenemer, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir à vous. La communicante Émilie Zapalski est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Et l'universitaire professeur de droit public, Benjamin Morel, maître de conférence. Pardon, bonsoir. Maître Benjamin Morel est avec nous. On commence par la réforme des retraites. Après les élections législatives, on savait bien qu'un jour ou l'autre, le mot serait lâché par le président. Emmanuel Macron a brandi la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale hier soir, dernier épisode de la bataille des retraites. Le président fait face à de vives oppositions de ses adversaires à l'Assemblée. Il menace d'une motion de censure, mais aussi dans son camp, François Bayrou, patron du Modem, ne veut pas de passage en force. Cette menace de dissolution lancée hier lors d'un dîner à l'Élysée s'adresse surtout au camp présidentiel, en fait, Benjamin Morel.
Alors, ça s'adresse au camp présidentiel. Ça permet de resserrer les rangs, notamment dans un moment où la majorité peut être vue comme étant une majorité relativement fragile. On sait que le Modem peut avoir quelques aigreurs à l'estomac en pensant notamment à cette réforme, que François Bayrou n'est notamment pas très ouvert à une réforme par amendement. Ça peut permettre de resserrer les rangs, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas tout à fait évident que si demain il devait y avoir une dissolution, eh bien ensemble en sortent forcément vainqueurs. Quand vous regardez les résultats des dernières législatives, on voit que le potentiel dans l'abstention, voire dans une partie de l'électorat de gauche, ou plutôt pour le RN, que pour ensemble. Ça permet également de faire pression sur la NUP, parce qu'il faut voir que la NUP a une capacité de blocage dans cette réforme. Tous les phénomènes d'obstruction dans l'histoire qui ont fonctionné avaient toujours au moins deux pieds. Vous aviez d'abord une mobilisation dans la rue, et ensuite une opposition qui savait faire de l'obstruction. La seule opposition qui aujourd'hui sait faire de l'obstruction et en a réellement envie, c'est la NUP. Or, cette NUP-là, en cas de dissolution, partirait probablement face à des difficultés. D'abord parce qu'il y a des divisions internes et qu'aujourd'hui, la grande peur des communistes, des socialistes, des Verts, c'est de se retrouver en cas de trop grande division face à un candidat insoumis. Et ensuite, parce que la NUP aujourd'hui a peu de réserves dans l'abstention et qu'à partir de là, il n'est pas certain qu'elle réédite le succès de la dernière fois. Donc en effet, en ce sens-là, c'est plutôt intelligent. Mais ensuite, il y a une cocotte minute sociale. Il n'est pas certain que cette cocotte minute-là prenne bien ce type d'annonce.
Alors, si je vous ai bien compris, il n'y a que le Rassemblement national qui a un intérêt à avoir des élections législatives anticipées. C'est pour ça que Marine Le Pen dit « chiche » aujourd'hui. Émilie Zapalski.
Oui, parce que c'est la force du Rassemblement national, déjà 89 députés. Puis on voit que, comme ils sont dans une opposition constructive, qu'il n'y a pas eu, il y a eu quand même pour la NUPES, il y a eu toutes les affaires là sur.
Sur la réforme des retraites, Marine Le Pen a dit qu'elle était prête à voter avec la NUP la motion de défiance.
Tout à fait.
Motion de censure.
Donc oui, probablement, c'est eux qui auraient le moins de risques, en tout cas, à une dissolution. Ils ont plutôt le vent en poupe, je pense, par cette discrétion, en fait, en termes de politique là actuellement. Et puis cette force petit à petit d'opposition. Moi, ce que je questionne plus, c'est la méthode, parce que vous l'avez dit, Benjamin, on est sur de la tactique. L'économie, c'est pourquoi ? C'est 3,8 milliards ou je ne sais plus combien. Enfin, on est sur quelque chose qui est finalement, par rapport à tout ce qui s'est dépensé au moment du Covid, au moment de l'Ukraine, là, le bouclier énergétique, finalement, c'est peu de choses. C'est quoi cette obsession ? C'est pour se montrer réformateur qu'Emmanuel Macron fait sa colère en disant « soit on vote la loi, soit c'est la dissolution, et en gros, vous aurez tous à y perdre ». Sauf peut-être le RN. Moi, c'est ça que je questionne plus. C'est une façon de dire, allez, on est dans la concertation, mais au bout du bout, j'arrête de respirer ces dissolutions si ça passe pas. Il y a une espèce de volonté de passage en force quelque part. Donc c'est, je lâche du lest pour être dans la concertation, mais au bout du bout, je suis toujours Jupiter qui décide parce que je fais cette menace-là. Moi, c'est ça que je questionne plus. À voir comment réagissent en effet les oppositions, mais moi, j'ai l'impression qu'elles vont tenir. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, la rue, est-ce que ça sera pas au bout d'un moment, parce qu'on sait que les Français n'en veulent pas, de cette réforme, même si elle a porté des bonnes choses sur le plan de la pénibilité, de la réforme de la retraite des femmes, sur les retraites les plus modestes. J'ai l'impression que cette pédagogie-là, elle passe pas, et que les Français, et on le voit au fil des sondages, ils ont pas envie de cette réforme, ça leur fait peur. Et je pense qu'on a des préoccupations plus importantes à l'heure actuelle. Si c'est juste pour mettre la croix, j'ai fait une réforme, c'est un peu triste, il me semble, comme méthode.
Alors, il y a aussi le rapport du Conseil d'orientation des retraites
qui
nous
annonce on lui fait dire
un quart de siècle
de
déficit. Ouais, ouais. Guylaine Hautenemer, c'est crédible, cette piste de la dissolution, vous y croyez, vous ?
Alors, d'abord,
on est dans la tactique, comme dit Émilie Zapalski.
Évidemment, ça, si je peux me permettre, ça fout le bordel. Tout le monde a un peu peur, y compris, je crois, le Rassemblement national. Ils sont absolument pas sûrs. Ils ont des petits jeunes qui étaient des assistants qui se sont retrouvés élus vraiment à un cheveu. on ne sait pas demain ce qui arriverait. C'est pas du tout gagner. Vous dites qu'ils ont le vent en poupe, oui, mais on ne sait jamais comment tourne une législation.
Enfin, oui, après, tout à fait. Mais en tout cas, ils ont réussi à peu près à tenir le choc de députés jeunes.
Oui, mais on reprend le fil et on refait une élection. C'est pas sûr que les gens se disent finalement, celui qu'on a élu, c'est un neuneu. On va finalement choisir un LR. Je sais pas. Donc tout le monde a un peu peur, y compris, je dis, dans les rangs du Rassemblement, enfin, de ce que j'entends. Maintenant, ce que vous disiez est tout à fait exact. On a l'impression que c'est juste un totem, quoi. Un totem de droite. Il faut faire cette réforme et je veux amadouer les LR parce que c'est mes meilleurs alliés. Donc, je vais leur donner cette réforme sans la remettre dans une big picture de ce qui est en train de se passer. On a eu tout un début de quinquennat où il ne s'est rien passé. C'était le moment peut-être d'enclencher cette réforme, de parler, d'expliquer. Est-ce que vous comprenez ? Là, les gens n'entendent parler que de PLFSS, d'amendements, de droits de dissolution.
Sans oublier le PLFSS.
Rectificatif. Bon. Non, mais vous rendez compte? On est en train de toucher à quelque chose qui est très important dans la vie des gens. C'est de dire, bon, bah, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, c'est les vacances. Enfin, voilà, pour des métiers pas. Difficile. Tous les métiers sont un peu pénibles. Il n'y a que quelques métiers très rares, comme ceux qu'on fait nous, qui sont des métiers passion, où on peut faire ça très longtemps et on n'a pas des problèmes de dos, des problèmes de ceci, voilà. Des gens qui restent toute la journée debout. Donc, eux, la retraite, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit PLFFS. Bon, non, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un moment, il faut quand même expliquer aux gens.
Ça a faire beaucoup de la agacé le président,
et
hein, de
comme
ce qu'on
vous
a
disiez,
le...
c'est quelques milliards.
Oui, c'est
on
pas
est
grand
pas
chose,
à deux
en
jours
fait,
près. Là, comme le vous disiez, le corps nous annonce une ou deux années de répit, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts du Covid. Voilà, donc on a un petit souffle, là. On n'est pas obligé de faire ça, là, juste avant Noël. On peut peut-être juste se donner le temps de réfléchir.
Ah, le président, et il tient,
ensuite,
il veut une entrée en vigueur avant l'été.
Il faut le mettre dans une grande enveloppe, parce que c'est vrai que les gens se demandent aujourd'hui, bah, c'est bien, on taxe pas les super profits, on n'en ferait pas la réforme de l'État, on fait pas la réforme de la décentralisation. Voilà, il y a des trucs qui coûtent aussi très cher et qu'on ne réforme pas.
On continue notre conversation juste après une brève page de publicité. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec Guylaine Hautenemer, Émilie Zapalski et Benjamin Morel. Nous parlons de la bataille des retraites qui ne fait que commencer. Mais le président Emmanuel Macron y tient à cette réforme. Il veut qu'elle entre en vigueur à l'été prochain et que le projet de loi soit adopté dès cet hiver. Des consultations vont commencer demain. Elisabeth Borne va recevoir la députée Mathilde Panot, l'insoumise, la chef de file des députés insoumis, et le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher. Et puis Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, était l'invité de nos confrères de BFM ce soir. Il a précisé les objectifs de la réforme.
Dans ce genre de situation, vous avez déjà ce qu'on appelle les échanges bilatéraux informels. Et ensuite, il y aura l'organisation par les ministres en charge, notamment Olivier Dussopt, qui est ministre du Travail, mais je pense aussi à Stanislas Guérini pour la fonction publique, qui vont démarrer des concertations avec les partenaires sociaux, syndicats et patronats, pour pouvoir discuter de ces conditions de réforme.
Alors vous
sachant
que
vous en connaissez l'objectif,
oui.
Qui est l'objectif qui a été l'objectif du président de la République pendant la campagne. Là aussi, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de surprise. Un recul progressif de l'âge de départ à la retraite, à raison de 4 mois par an pour atteindre 65 ans d'ici 2031.
Voilà, le cap des 65 ans, passage en force est obligatoire, en fait, Benjamin Morel. On entend Olivier Véran qui parle de concertation, etc., mais on sait très bien que les syndicats, ils sont fermement opposés à cette réforme.
Bah, c'est un peu la méthode de négociation Macron. Il en était de même, en réalité, pour la réforme du Code de travail. C'est-à-dire que, ou d'ailleurs pour la réforme, tout à l'heure vous parliez des collectivités territoriales, pour la réforme des collectivités, vous annoncez la couleur et ensuite vous réunissez les partenaires et au bout du compte vous imposez ce que vous avez décidé au départ après avoir fait mine de consulter. Là, on se retrouve dans la même situation, sauf qu'il y a deux inflexions. La première inflexion, c'est que tout de même, il y a eu une campagne présidentielle où Emmanuel Macron a dit que le pouvoir serait à nouveau plus vertical, etc. On a même créé un nouvel organe, un truc un peu ad hoc, le CNR, qui avait pour but justement de réunir les différents partenaires pour essayer de les faire dialoguer entre eux. Il n'y a que les collectivités et la CFDT qui y siègent. Aujourd'hui, entre les collectivités qui sont fâchées sur la CVAE et la CFDT, demain probablement sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron risque de s'y retrouver fort seul. La deuxième inflexion, c'est que tout de même, on a une situation aujourd'hui sociale qui est une situation extrêmement complexe, bouillante. Et donc à partir de là, si vous restez dans une approche purement jupitérienne de votre pouvoir sur un sujet aussi clivant, qui a déjà fait l'objet de manifestations de la grève la plus longue de la Ve République en 2019. Et qui plus est, avec aujourd'hui des enquêtes d'opinion qui montrent que l'opinion s'est cristallisée à tort ou à raison contre cette réforme, vous envoyez tout de même aujourd'hui du pétrole sur un feu de bois. Donc il y a tout de même un vrai risque et on voit que le politique là-dessus est en effet dans de la tactique. Ce qui s'est dit sur cette dissolution, entendons-nous bien, on a parlé de l'adresse aux politiques, en quoi l'opposition, la majorité, s'en serait formalisée ou pas. Mais tout le monde est au courant, il n'y a eu qu'une motion de censure qui est passée sous la Ve République. C'est la motion de censure qui a renversé le gouvernement Pompidou. D'emblée, le général de Gaulle a dissous. Très clairement, tout le monde sait que si demain un nouveau gouvernement devait tomber, le président de la République allait dissoudre. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une adresse vis-à-vis de l'opinion, c'est un acte d'autorité. Un acte d'autorité qui est un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que pour avoir une motion de censure qui passe, il vous faut un accord de toutes les oppositions, RN, NUP et LR, sur un même texte. La NUP va déposer un texte où elle va expliquer que cette réforme est antisociale. Évidemment, LR va avoir toutes les peines du monde pour voter ce tel texte. Si jamais ils s'abstiennent, en réalité, ça joue pour le gouvernement. C'est un point de droit, mais extrêmement important, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a très peu de chances que cette motion de censure passe.
Emmanuel Macron leur tord le bras, en quelque sorte, parce que les Républicains défendent cette réforme depuis très longtemps.
Mais surtout, Emmanuel Macron lance un message à l'opinion. Il explique qu'il est plus fort et il joue les matamores face à un taureau en carton, parce que fondamentalement, aujourd'hui, les chances que cette motion de censure passe sont quasi nulles.
Émile Zapalski.
Oui, parce qu'il s'est cherché finalement Emmanuel Macron. Il cherche à marquer des points et à dire à l'opinion publique, c'est quand même moi le chef, j'ai été élu et donc je vais faire mon programme. Là où Olivier Véran n'est pas tout à fait honnête, c'est qu'on était à 65 ans en effet au début de la campagne et puis dans l'entre-deux-tours, on a dit Emmanuel Macron a dit, oh, peut-être ce ne sera pas 65 ans parce qu'il fallait parler davantage à la gauche pour se faire élire au deuxième tour globalement. Donc il y a eu quand même des changements. Et en effet, vous l'avez rappelé, Benjamin, la méthode refondée, on la cherche, hein, parce que la concertation, alors qu'on a déjà décidé de ce qui sera au bout du bout issu de la concertation, c'est un peu pipeau. Je pense qu'il s'est cherché beaucoup en termes de thèmes, parce que je revenais sur tout ce qu'il a lancé là, à la rentrée immigration, puis finalement, on repousse, on est sur de la consultation, de la concertation, c'est pas trop. Fin de vie, alors c'est urgent, hein, et puis tout d'un coup, on n'en reparle plus. Les énergies renouvelables, ça va venir après le projet de loi, l'énergie aussi. On a l'impression qu'il y a une espèce de, pas schizophrénie, mais de frénésie, en fait, de lancer des choses pour essayer de marquer quelque part son territoire. Et c'est vrai qu'il s'est remis sur les retraites parce que c'est le seul marqueur, finalement, de son programme qui paraît à peu près clair. Mais après, il n'y a pas de ligne. Et comme vous le disiez, il n'y a pas d'objectif positif, en fait. Moi, c'est ce que je reproche. On a élu un président, on a passé quand même une crise Covid qui a été quand même très compliquée, sur laquelle on va commencer à avoir les répercussions, parce que les défaillances d'entreprises, avec en plus de la crise de l'énergie, ça va commencer à arriver, les difficultés des collectivités, des entreprises, tout ça, ça va venir, et des gens, chômage partiel. On a passé cette crise Covid, on a passé la crise ukrainienne, là, on est en train de la passer, et tout ce qu'on nous sort à l'issue de ça, c'est vous allez travailler plus longtemps. Moi, je questionne ce projet de société, et je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus porteuses, et l'écologie en fait partie, mais il ne se saisit pas de ça. L'écologie, pour l'instant, c'est porter un col roulé pour faire de la sobriété énergétique et moins se chauffer. Je trouve que c'est un petit peu, c'est pas très ambitieux, et ça manque de positif, parce qu'on a besoin de sortir la tête de l'eau, et les retraites, c'est très limité en termes de gains financiers et en termes de projets de société.
Voilà, il y a le jeu politicien et effectivement, il y a la rue, la réforme des retraites, ça donne toujours l'occasion aux syndicats de se mobiliser, de se faire entendre. La réforme des retraites, elle était sur certaines pancartes aujourd'hui dans les quelques 200 rassemblements organisés. Je voudrais qu'on écoute Philippe Martinez de la CGT.
Ça, c'est des choix politiques du président de la République. Plutôt que de penser à des jeux politiciens, il ferait mieux d'écouter une majorité des Français qui est contre cette mesure. On écoute le peuple quand on est président de la République. Il dit qu'il a changé, mais il veut imposer sa loi, il veut imposer son opinion. Et face à une majorité de Français qui disent « on ne veut pas l'allongement de la retraite », face à l'unanimité des syndicats qui disent « il ne faut pas reculer l'âge de la retraite », soit il a changé, soit il continue et il cherche le rapport de force, il va le trouver.
La Philippe Martinez de la CGT dans l'un des quelques 200 rassemblements organisés aujourd'hui, ça a peu mobilisé, hein, selon une source policière. Il y avait 52 000 personnes dans les rues de France à midi. On évoquait les grèves de 95. On a changé d'époque quand même, Guylaine Othémer.
Moi, je pense qu'on n'est pas pour le moment dans un schéma d'explosion sociale. Je pense qu'on est plutôt dans un schéma d'implosion. Il y a un découragement, il y a le sentiment que il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grandes grèves, Et on a un président qui n'écoute pas, qui se fiche finalement des règles démocratiques, qui a été bon, qui arrête pas de répéter, bon, bah, c'était dans mon programme présidentiel, mais il a fait combien de pourcents des voix au premier tour? Et aux législatives, il a pas la majorité. On n'est pas dans un système à l'allemande où on peut arriver devant les Français, voilà. On s'est mis d'accord, nous, la Renaissance, LR et les socialistes, voilà, on représente 55% de l'échiquier et on est d'accord. Donc, la démocratie passe. Là, Macron, il représente combien? 30% de l'électorat. Bon, et d'ailleurs, dans les sondages, c'est 30% des électeurs. Et essentiellement, d'ailleurs, des retraités qui sont favorables à cette réforme. Des gens qui ont déjà pris leur retraite et qui disent, bon, bah, vous, les jeunes, allez travailler un peu plus longtemps pour qu'on touche pas à nos prestations. Donc, c'est quand même assez embêtant. Et quand vous disiez une opposition de carton, moi, je dis que c'est aussi un petit peu une réforme de carton parce qu'on est parti aux 65 ans, voilà, on va faire des grosses rues, parce que ça va rapporter de la richesse à la France. Il faut encore qu'il y ait des emplois qui y aient derrière. Mais c'est surtout qu'on redescend à 64 et en fait, déjà, les gens sont avec la réforme Touraine, on est déjà à 63,5. Donc voilà, il y a un moment où c'est pas besoin d'aller sortir la bombe atomique pour dire aux gens vous allez travailler plus. Et alors moi, il y a un truc qui me choque beaucoup, c'est que dans les pays du Nord, quand on a fait ces réformes pour allonger la date de départ à la retraite, il y a eu un énorme travail de fond sur comment on fait travailler les seniors dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, eh ben, vous pouvez plus être prof à 60 et quelques années, vous pouvez plus porter conduire des gros engins. Alors à ce moment-là, vous rentrez dans la logistique. Il y a des formations à faire. Il y a des tas de choses à faire où il faut prévoir d'autres choses. Et on n'a pas travaillé là-dessus. Personne n'a travaillé là-dessus. Ni les ministères, ni les think tanks. Personne. Tout le monde s'en fiche.
Benjamin Morel.
Oui, et rapidement, mais si jamais, en plus, on devait avoir une réforme par amendement au PLFSS, il faut bien voir qu'il n'y aura qu'une mesure, celle de l'âge. Parce que sinon, c'est des cavaliers législatifs. Là aussi, c'est technique, mais grosso modo...
Emmanuel Macron semble pencher pour un projet de loi apparent.
Pour l'instant, il n'y a aucune certitude. C'est-à-dire que si jamais on passe par un amendement, si jamais on passe par un projet de loi avant la fin de l'année, très compliqué. Pour des raisons de calendrier et législatif. Avant la fin de l'année, on a la place pour le PLFSS et pour le PLF. Si vous voulez vraiment avoir un gros texte, c'est-à-dire le budget et le budget de la sécurité sociale, si vraiment vous voulez avoir un gros texte concerté qui plus est en amont, je suis désolé, à ce stade-là, il n'y a pas eu de session extraordinaire, il n'y a pas le temps. Donc soit vous faites ça avant décembre et ça implique de passer par amendement, il n'y a qu'une mesure d'âge et peut-être une mesure sur les régimes spéciaux, tout le reste, vous ne pouvez pas le mettre dans votre PLFSS. Soit vous faites un plus gros texte, mais ça implique de repousser la date et d'avoir une consultation plus importante.
La fin de l'hiver, ça nous laisse jusqu'à février.
Et là, on a tout de même une situation qui risque d'être relativement explosive, parce que si jamais non seulement vous ne consultez pas, mais qu'en plus, ce que réclament réellement les syndicats, vous n'êtes pas capable de le donner, et comme ça a bien été dit, si vous n'êtes pas capable de repenser d'une manière même minimale le système, eh bien là, vous avez une réforme qui non seulement sera perçue comme injuste, elle est déjà perçue comme injuste, mais qui plus est, objectivement, le sera.
Alors si on fait ce que disent les syndicats ils n'en veulent pas. Si Emmanuel Macron renonce à la réforme des retraites, Émilie Zapalski, que restera-t-il de son mandat?
Ah bah il commence, de toute façon on est quand même sur le début du quinquennat, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est dans les 100 premiers jours, enfin c'est au début du quinquennat qu'on peut faire des réformes importantes.
Mais
et
un
qu'après,
président
c'est compliqué.
Qui recule, c'est reste très compliqué de gouverner.
Mais je pense que c'est de là que vient cette espèce d'obsession, d'obstination à faire cette réforme des retraites, et peut-être qu'il y avait d'autres réformes ou d'autres moins marqueurs de son projet, mais qui pourraient être plus intéressant. Pour revenir juste sur les seniors, ce qu'on dit toujours en termes de statistiques, c'est que plus on repousse la date de départ en retraite, plus les gens travaillent longtemps. Bon, en France, moi je demande à voir, parce qu'en effet, il y a beaucoup de problèmes sur les seniors. Mais pour revenir à votre question, moi je pense que de toute façon, obstiné comme il est, il va aller jusqu'au bout, il va faire sa menace. Après, on verra, parce que c'est vrai qu'actuellement, les gens sont plutôt repliés sur eux-mêmes, parce qu'il y a des difficultés de pouvoir d'achat, il y a l'inflation, il y a la crise de l'énergie, on a peur. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver si on a froid, si on a du mal à se chauffer parce que les factures sont trop importantes? C'est compliqué, c'est pas le meilleur moment pour aller dans la rue se révolter, parce que chacun essaie d'attendre un petit peu l'aide de l'État. L'État a beaucoup pété pendant le Covid.
Ça peut être explosif.
Mais voilà, ce que je voulais en venir sur un moment, est-ce qu'il n'y aura pas un déclencheur qui fait que c'est la goutte d'eau, c'est au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol, on peut payer nos factures, on nous mène par le bout du nez, parce qu'en effet, je pense que ça fait beaucoup de mal à la démocratie ce qu'il est en train de faire, alors que son projet, c'était aussi ça, c'était d'améliorer restaurer la démocratie, le Conseil national de la Fondation, qui est complètement bidon, c'était ça aussi, c'était faire intervenir des citoyens. On voit que ça ne marche pas. Et là, ce qui fait en promesse de dissolution, d'espèce de menace très volontariste, ça commence à bien faire et ça fait beaucoup de mal, je pense, à la démocratie.
Nous sommes avec Émilie Zapalski, Benjamin Morel et Guylaine Hautenemer. Nous passons en revue l'actualité du jour. Nous continuons dans quelques instants sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Dernière partie d'Europe Soir avec Guylaine Hautenemer, Émilie Zapalski et Benjamin Morel. Juste avant la pause, nous évoquions la réforme des retraites à laquelle Emmanuel Macron est très attaché. Selon le président, il va falloir travailler jusqu'à 65 ans si on veut que les comptes soient à l'équilibre. Et qui payera nos retraites ? Eh bien, ce sont nos enfants. Si on ne veut pas que ça leur coûte trop cher, eh bien, voilà, il va falloir réformer le système des retraites selon Emmanuel Macron. Des enfants, il y en a. Hein, ça faisait des années, 6 ans pour être précis. L'INSEE relève un taux de natalité en hausse aujourd'hui pour l'année 2021. 742 100 bébés naquirent dans l'Hexagone l'an dernier, plus 0,9% de plus qu'en 2020, année des confinements. Même en 2021, il y avait eu des confinements hein, moins stricts. Hein, en 2020, les enfants étaient à la maison. C'est une bonne nouvelle de voir la natalité repartir à la hausse, Benjamin Morel. Alors,
c'est une bonne nouvelle et c'est un défi. C'est une bonne nouvelle parce que les richesses d'une nation, elles ne se chiffrent pas d'abord en terres arables, elles ne se chiffrent pas d'abord en ressources minières, etc. Elles se chiffrent en capacité de travail et en capacité à produire. Or, évidemment, qui dit de nouveaux enfants, dit de nouveaux cerveaux pour inventer demain et dit également de nouvelles capacités de travail pour demain, eh bien, augmenter notre production et donc être collectivement plus riche et plus fort dans la mondialisation qui s'annonce. Et en même temps, c'est un défi. Enfin, c'est pas à vous que je vais rappeler l'état de notre école. Aujourd'hui, ma compagne est enseignante en primaire. Aujourd'hui, au vu de la situation, elle a vu des agents contractuels formés 4 jours prendre des classes de CP et être incapables d'écrire une consigne au tableau. On a eu ça, parfois. Alors, pas tous, hein. Je ne dis pas que tous les contractuels étaient dans cette situation-là, mais on a une éducation nationale qui est un grand cadavre à la renverse. Si demain, on veut que ces enfants soient une chance, il faut les former. Pour ça, il faut un service public qui fonctionne. Ce service public, il va nous coûter de l'argent, il va falloir le rénover, il va falloir le réformer. Mais là, on voit toute cette urgence, parce que des enfants qui ne sont pas formés, eh bien, ça risque demain, non pas d'être une chance, mais d'être une difficulté qu'on va traîner la société, justement, pour pouvoir les accompagner dans des carrières qu'ils n'auront pas choisies. Donc, grande chance, grand défi aussi.
Guylaine Hautenemer, vous inspire ?
Moi, ça me fait plaisir parce que on a entendu pas mal d'écologistes dire il faut plus faire d'enfants
ça
parce
pollue,
que ça fait
paraît.
Une empreinte carbone, etc. Ce qui est une vision totalement désespérée de ce qui se passe dans notre monde. Je conçois qu'on ait une vision aussi noire, mais je suis contente quand même que nos concitoyens n'aient pas adopté cette vision absolument désespérante.
Alors après,
de
il faut voir si la tendance mais, se confirme.
Oui,
hein, les confinements
oui, parce qu'après,
ont beaucoup
oui,
joué.
Voilà, c'est comme après les blackouts, quand il y a eu des coupures d'électricité pendant longtemps. Après, neuf mois après, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants parce que les gens n'ont pas regardé la télé, etc. Mais voilà, c'est toujours une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec vous, c'est des défis. L'école, il y a des solutions. Et elles sont là, elles sont devant nous. Il faut simplement... Moi, je pense qu'il faut changer de régime et que ce n'est pas un président qui décide tout seul et qui impose tout seul. Il faut qu'on arrive à faire des choses de manière beaucoup plus collective. Ça veut dire dans un régime beaucoup plus parlementaire. Et on répondra à ces défis.
Émilie Zapalski.
Oui, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est comme c'est le mot à la mode, la résilience, mais il y a un peu de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on est élastique. Finalement, on vit les crises et puis hop, on a des projets. Si on fait des enfants, ça veut dire qu'on se projette. Ça veut dire qu'on envisage les perspectives, on envisage l'horizon, on envisage l'avenir et c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a des bonnes raisons de le faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas que les écologistes qui disent les enfants, ça pollue. C'est aussi une peur. Je pense que les générations qui viennent et les jeunes particulièrement sont beaucoup plus conscients de l'état de la planète, même que nos générations. Et ont peur. Moi, je vois des jeunes qui disent, mais j'ai pas envie de faire.
On appelle l'éco-anxiété.
Oui, j'ai pas envie de faire enfant, non pas parce qu'il polluerait davantage, ça peut être une des raisons, mais surtout parce que je n'ai pas envie de le mettre au monde dans un monde qui va si mal et qui risque de ne plus exister d'ici quelques temps. Il y a des réelles peurs. Et puis, il y a autre chose, c'est aussi, on voit d'ailleurs dans les chiffres, que les femmes, et ça on s'en rend compte, font des enfants de plus en plus tard. Et je pense que. Il y a des questions qui relèvent du féminisme aussi, pas seulement du féminisme, mais de l'envie de participer à la société à la même hauteur que les hommes, c'est-à-dire avoir sa carrière. C'est encore toujours compliqué, hein, les congés maternité pour les femmes et les carrières. Il y a toujours ces difficultés. Donc c'est l'envie d'avoir sa vie professionnelle avant tout de suite de se lancer en tant que maman qui peut un petit peu occasionner des difficultés d'organisation, on va dire, et de responsabilité. Et il y a aussi cette idée, je pense, au-delà de ça, de rapport au travail. Je pense que, là, tout à l'heure, vous disiez, il y a le problème d'éducation, mais il y a aussi toutes les générations qui arrivent, et à mon avis, les jeunes qui naissent aujourd'hui, ça va être aussi ça, c'est qu'il y a un rapport à la vie un peu différent. Et je pense que le Covid a beaucoup joué là-dessus, et les managers s'en rendent compte. On ne conçoit pas le travail de la même façon. C'est-à-dire que la vie, aujourd'hui, n'est pas la même que ce qu'on pensait avant. On ne conçoit pas forcément de travailler comme des fous. Voilà, on surveille les conditions de travail, on surveille ses loisirs, on surveille son temps. Et je pense que ça, on ne se rend pas encore compte quel changement, mais je pense que la génération, il y a vraiment des coupures, une rupture, et quelque chose qui est assez nouveau.
Il y a eu un bol d'air.
Oui, c'est intéressant, mais c'est difficile parce que les employeurs et même les gens de nos générations ont encore du mal à comprendre ces jeunes, et les tout-petits, on ne sait pas encore évidemment ceux qui naissent, mais quel changement ça implique et comment prendre ces nouveaux états d'esprit. Il faut être assez ouvert pour voir que c'est très différent de nos schémas et de nos repères, mais c'est plutôt porteur parce qu'ils sont dans leur monde, donc avec des pensées et des envies nouvelles. Et c'est pas que négatif sur l'écologie.
Est-ce qu'on a envie de fonder une famille, d'avoir des enfants plus tard de nos jours? Les femmes les plus âgées ont tiré la natalité vers le haut. Donc chez les mamans de moins de 30 ans, le taux de natalité baisse. Il progresse chez les femmes âgées de 30 à 34 ans, de 35 à 39 ans, de 5,3%. Chez les 40 ans et plus, Benjamin Morel.
C'est assez logique parce qu'en réalité, on a une évolution des carrières qui pousse à ça. Aujourd'hui, vous avez des niveaux d'études globales de la population.
Un statut social.
Alors, vous voulez d'abord terminer vos études. Souvent, vous terminez vos études à entre 20 et 25 ans. Et ensuite, il faut faire un effet en début de carrière. Et là-dessus, on a quand même beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup cracher sur les services publics, dire qu'ils sont défaillants, je l'ai dit, et c'est le cas. Mais en même temps, ils marchent souvent, notamment pour la petite enfance, bien mieux qu'ailleurs. Aujourd'hui, si vous regardez les problèmes de natalité profonds de l'Allemagne, au fond de l'Italie, qui sont deux pays vieillissants, ce qui explique d'ailleurs beaucoup par rapport à leur conception.
Pour que les auditeurs comprennent, le taux de fécondité, comme on dit, aux alentours d'1,2, 1,3 en Allemagne, en Italie, aux alentours d'1,8, 1,9, il faudrait refaire le calcul avec ces statistiques en France.
C'est ça, ça veut dire que les générations ne se renouvellent pas en Italie et en Allemagne, et que demain, notamment le financement des retraites, etc., l'attachement à l'euro fort en Allemagne est très lié à ça en réalité, au fait que vous avez une société qui est une société fondamentalement vieillissante, parce qu'elle ne conjugue pas carrière et maternité ou paternité. Et qu'en règle générale, en Allemagne, quand vous voulez avoir un enfant, vous mettez entre parenthèses, voire vous interrompez votre carrière. Aujourd'hui, on a cette chance, et ça fait aujourd'hui que la France est un pays d'avenir, et ça, je crois qu'on peut quand même s'en féliciter.
Guylaine Otenemer.
On parlait de l'évolution de la société. Je pense que non, on entre dans une nouvelle ère où les gens veulent arbitrer eux-mêmes. Je pense que c'est très, très, très vétuste comme approche, archaïque, de dire, voilà, tout le monde va partir à 65 ans, je fais une loi. Je crois qu'il faut laisser les gens dire, je vais travailler beaucoup jusqu'à 45 ans, je vais mettre un peu d'argent de côté, puis après, je vais habiter à la campagne, et puis je vais travailler moins. Voilà, chacun a envie d'organiser. Il y a quand même 250 000 jeunes qui étaient dans des jobs de management, ayant fait des grandes écoles, qui sont partis pour faire des métiers artisanaux. Donc, ça veut dire que quand même, les gens, l'argent, le revenu n'est pas la seule valeur d'ajustement. Et aujourd'hui, on peut pas dire... Comme du temps, vous savez, Napoléon, il voulait que tout le monde fasse la même dictée à la même heure pour que ça fasse un peuple uni, etc. Puisqu'avant, les gens ne parlaient pas forcément les mêmes langues, etc. Ben, c'est fini, là, avec l'ère d'Internet, avec ce qui s'est passé avec le Covid. On peut plus dire, allez, tout le monde, allez, tous en rang, la retraite à 65 heures, les 35 heures, les trucs. C'est plus comme ça. Et l'école va devoir changer. Tout va devoir changer.
Oui, ce qui est compliqué dans une société comme ça, c'est de savoir quel cadre ou quel deal, négociation, j'allais dire collectif, qu'est-ce qu'on donne comme cadre collectif pour avoir cette liberté-là, individuelle, et en même temps respecter forcément des contraintes. Et on sent bien qu'on n'y arrive pas encore parce qu'on a des nouveaux repères.
Personne n'y a vraiment réfléchi.
Non. Et on n'a pas réfléchi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'avant, on faisait ce qu'on nous demandait de faire, et puis voilà, donc on est vraiment en train de changer de modalité, il va falloir changer d'ADN ou de logiciel, comme on dit habituellement.
Les professeurs d'université, les intellectuels, les philosophes réfléchissent à ça, pas seulement le gouvernement. Il faut que la société civile aussi s'empare
surtout,
du sujet.
Surtout le voir comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'un enfant gâté, mais d'une nouvelle façon de voir la vie, de concevoir et de concevoir la répartition ou les séquences de vie qu'on veut. Quand on voit ces femmes-là, en Allemagne, c'est vrai qu'il n'y a pas de garde d'enfants. Il y a même des mouvements de jeunes femmes qui disent « moi, je n'aurai pas d'enfants, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de garde d'enfants avant 6 ans ». Et il y a des jeunes femmes qui font des mouvements pour dire « moi, je n'aurai pas d'enfants ». ça existe aussi en France, hein, des gens qui disent « moi, je n'aurai jamais d'enfant, pas pour des raisons d'écologie ou quoi, simplement parce que je considère que je suis plus libre, plus individuelle, je peux faire des choix différents », ce qui est vrai, parce que les enfants, c'est quand même contraignant, il y a aussi une responsabilité, mais c'est en effet cette question de l'individualisation, en fait, de sa vie, y compris professionnelle, qui est en jeu. Et on n'est pas habitué à ça. L'État est très centralisateur et il décide tout. Peut-être qu'en effet, il faut s'ouvrir. Les citoyens sont beaucoup plus responsables que ce qu'on croit par rapport à la vie politique, la vie sociale, la vie sociétale aussi. Et il faudrait peut-être leur en donner des petits bouts.
Oui, mais en même temps, Benjamin, le rôle de l'État, c'est justement de donner le choix. C'est-à-dire qu'un État émancipateur n'est pas un État qui vous contraint à faire quelque chose, mais vous donne la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Par rapport aux exemples que vous donniez, ce n'est pas un choix de la femme allemande de ne pas avoir d'enfant quand elle veut continuer sa carrière. Elle n'a en réalité pas le choix parce que le service public n'est pas là.
Et le rôle de l'État, politique familiale.
Exactement, c'est de donner la possibilité soit de continuer sa carrière, ce qui est tout à fait légitime, soit au contraire de l'arrêter, soit de ménager les deux. Et là, en réalité, il y a un vrai rôle, en effet, aujourd'hui, de l'État, des services publics, qui a tort ou a raison quand vous prenez les enquêtes. Je vous renvoie par exemple à une enquête Opinion Way printemps 2020 pour le printemps de l'économie, qui montrait qu'il y a une attente d'État, en réalité. Mais d'un État, justement, qui soit un État qui soit en capacité de faire, et en ayant la capacité de faire, qui est la capacité, justement, d'émanciper l'individu. Et je rejoins absolument. C'est-à-dire que, fondamentalement, aujourd'hui, on ne peut plus avoir un président de la République qui, dans sa tour, décide ça et ça et ça. En réalité, c'est une vision extrêmement archaïque. Or, aujourd'hui, il y a un besoin de participation, il y a un besoin de consultation. Quand vous regardez, ne serait-ce que les grandes démocraties occidentales, tout à l'heure, vous citiez l'Allemagne. En Allemagne, quand il y a des études comme celle de Blaise Helloen en sciences politiques qui montrent qu'un Allemand sur deux est, en général, satisfait des politiques publiques. Il n'y a pas de mystère. Il y a un Allemand sur deux qui a voté pour la coalition au pouvoir et donc qui se sont engagés dans cette politique publique. En France, en 2017, la majorité élue La République En Marche Modem fait 15,5% des inscrits au premier tour et ça donne 60% des députés. Et ensuite, vous cherchez d'où vient le déficit démocratique.
Merci Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2. Merci Guylaine Hautenemer, rédactrice en chef à Challenge. Et merci Émilie Zapalski, communicante. Restez avec nous dans quelques instants sur Europe 1. Vous avez rendez-vous avec votre grande soirée sportive quotidienne. C'est dans quelques instants. À tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.